Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, le coin diplomatique, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par les journaux. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements informés entre autres. Le gouvernement indonésien condamne fermement les actions d'Israël visant à attaquer des écoles dans le centre de Gaza. Le ministère des Finances demande à Geodipa d'intensifier l'exploration géothermique. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie lance Road to Ways 2025 réunissant des entrepreneurs musulmans de 24 pays. Karaté indonésien a remporté le championnat général en août 2024 avec 10 médailles d'or. Marine indonésienne prépare une formation avec les US Navy SEALs pendant 3 semaines à Situbondo. Un PME soutenu par Pousserie ont participé au Festival indonésien de Copenhague au Danemark. Et Pelindo étend la mise en œuvre du porte automatique à 29 ports pour parvenir l'extorsion. Pour changer de terre, voici le nouveau en complet. Le gouvernement indonésien condamne fermement l'attaque menée par Israël contre l'école Al-Jauni dans le camp de réfugiés de Nuseirat géré par l'UNRWA samedi 6 juillet dans le centre de Gaza. Dans un communiqué publié lundi 8 juillet par le ministère indonésien des Affaires étrangères, il a été déclaré qu'Israël continue de commettre des atrocités et que les violations du droit international continuent de diminuer et que les pertes civiles continuent de diminuer. Le gouvernement indonésien a rapporté que le ministère israélien de la Santé a déclaré qu'au moins 16 personnes avaient été tuées dans une attaque israélienne contre une école abritant des familles palestiniennes déplacées dans le centre de Gaza. Cependant, selon Israël, l'attaque visait des militants du Hamas. Le ministère israélien de la Santé a également déclaré que l'attaque contre l'école à Nuseirat a également blessé plus de 50 personnes. Le ministère des Finances a demandé à Geodipa Energy SA d'intensifier les activités d'exploration et de développer des puits géothermiques afin d'optimiser l'utilisation du potentiel géothermique. Cela a été transmis par le vice-ministre des Finances, Suhasil Nazara, lors de la commémoration de l'anniversaire de Geodipa Energy SA et du lancement de la synergie du programme de responsabilité sociale des entreprises pour sauver le bassin versant de Serayu à Dieng, Banjarnegara, Java Central, dimanche 7 juillet. Soasil a déclaré que JODIPA, en tant que véhicule de mission spéciale SMV du ministère des Finances, était spécifiquement chargé de mener l'exploration et d'exploiter la production d'électricité à partir de l'énergie géothermique. Soasil a souligné que les ressources naturelles, notamment les forêts et l'énergie géothermique, doivent être utilisées pour réduire les émissions de carbone, car ce sera l'entreprise du futur. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, chef de l'Agence du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a inauguré l'événement Road to Ways, sommet mondial de l'entrepreneuriat islamique 2025, qui a eu lieu à la grande mosquée Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Ways grande mosquée de Sumatra à Padang, dimanche 7 juillet. Dans une déclaration écrite, il a été déclaré que WAIS 2025 devrait être un élan pour le développement de l'entrepreneuriat halal en Indonésie, en particulier dans les secteurs du tourisme et de l'économie créative. WAIS, qui sera mise en œuvre pour la première fois en 2023, est un forum qui rassemble des entrepreneurs musulmans de 24 pays du monde pour échanger des informations, ouvrir des opportunités commerciales, des idées et de nouveaux emplois. En dehors de cela, cette activité est également le bon élan pour renforcer l'image de l'Ouest de Sumatra comme l'un des points de développement de l'écosystème entrepreneuriat halal dans le monde. Le contingent indonésien a remporté le championnat général de karaté aux Jeux universitaires de l'ASEAN 2024 qui se sont déroulés au bâtiment rond de l'Université islamique de Malang. Cité par Antara dimanche 7 juillet, le contingent indonésien a dominé en contrôlant la tête du classement final avec 10 médailles d'or, 5 d'argent et 6 de bronze. La dernière médaille d'or en karaté pour l'Indonésie a été remportée dans l'épreuve de kumite par équipe féminine qu'elle a réussi à remporter contre la Thaïlande avec un score de 9-5. Pendant ce temps, la Thaïlande est suivie à la deuxième place avec 4 médailles d'or, 8 d'argent et 1 de bronze. Pendant ce temps, la Malaisie a pris la troisième place, remportant 3 médailles d'or, 3 d'argent et 8 de bronze. Le directeur du contingent indonésien de karaté, Nelson Nock, dans sa déclaration à Surabaya dimanche 7 juillet, a expliqué que dans cette compétition sportive biennale multi-épreuve, le conseil d'administration de la Fédération indonésienne des sports de karaté do, Forki, a aligné son meilleur athlète ayant participé à un champ d'entraînement pendant 2 semaines. La marine indonésienne se prépare pour le Flash Thunder Iron 2024 de Joint Combined Exchange Training avec les forces spéciales de la marine américaine, US SOPAC, US Navy SEALs. La formation est déroulée à Surabaya et Situbondo dans l'est de Java du 8 au 29 juillet 2024. Les préparatifs comprenaient la fourniture d'un soutien opérationnel au vol de transport aérien pour le personnel et l'équipement de l'US Navy à la base aérienne de la marine indonésienne, la Nudal Juanda Sidoarjo, dans Java Oriental, le service d'information de la marine indonésienne, dans son émission officielle. Cité par Antara dimanche 7 juillet, a expliqué que les forces spéciales de la marine américaine sont arrivées à la base aérienne de Juanda à l'aide d'un avion Dornier DO-328 vendredi 5 juillet dernier. L'entraînement JCET Flash Thunder Iron 2024 est un exercice bilatéral entre le centre de commandement des troupes FROC de la marine indonésienne et le SOPAC US Navy SEAL Group 1. L'exercice fait suite aux travaux de discussion bilatérale sur la défense entre les États-Unis et l'Indonésie, USIBIDE de 2022 et les pourparlers de la Force d'opération spéciale SOF en 2022. L'entreprise publique Pupuk Sriwijaya S.A. Pusri collabore avec les micro, petites et moyennes entreprises PME, encouragées et présente des produits de qualité supérieure au Festival indonésien de Copenhague 2024. L'événement a été organisé par l'ambassade d'Indonésie à Copenhague, à Radhuspladsen, Copenhague, Danemark. Cité par Antara dimanche 7 juillet, le chef adjoint de Pusri, Alde Dianrini, à Palembang, dans le sud de Sumatra, dimanche 7 juillet, a déclaré que les produits MPME de Pusri, tels que les sacs Jumputan et Ecoprine, ont reçu une réponse très positive de la part des visiteurs. Cela peut être vu depuis le niveau de vente le plus élevé sur le stand Pupuk Indonesia du festival. Le festival comprenait également 27 stands servant des plats indonésiens typiques et vendant divers produits et objets artisanaux, y compris les produits des partenariats de Pusri et des agents de voyage proposés des voyages organisés en Indonésie. Il a également déclaré que le festival avait réuni pas moins de 16 000 visiteurs, dont la majorité étaient des citoyens danois et des touristes étrangers en vacances à Copenhague. Plabon Indonesia Persero Pelindo S.A. étant la mise en œuvre de portes automatiques autogate dans 29 ports d'ici 2024 dans le cadre d'un engagement à réaliser des ports exempts de prélèvements illégaux, extorsion, cité par Antara dimanche 7 juillet, le directeur général de Pelindo, Putut Sri Mulyanto, a déclaré qu'à partir de juillet 2024 jusqu'à la fin de l'année, Pelindo exploitera des portes automatiques dans 4 ports de la région 1, 3 ports de la région 2, 14 ports de la région 3 et 8 ports dans la région 4. Mulyanto a expliqué que le fonctionnement des portes automatiques se fera par étapes, en tenant compte du trafic de véhicules dans les portes où le système de portes automatiques sera mis en œuvre. Il a déclaré qu'en plus de viser à normaliser les opérations portuaires, les portes automatiques visaient également à créer un port exempt d'extorsion. D'ici fin 2024, il est prévu que 59 ports exploiteront des portes automatiques. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire ayant pour le titre « Le nouveau président iranien est l'espoir de paix au Moyen-Orient ». L'Iran a officiellement un nouveau dirigeant. Samedi 6 juillet, Massoud Pezeshkian a été élu président de l'Iran en remplacement d'Ebrahim Raisi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai. Même s'il a échoué à deux reprises dans sa candidature à la présidence iranienne en 2021, Pezeshkian a réussi à assurer la victoire en 2024 après avoir récolté plus de 30 millions de voix en jeu contre son adversaire Saïd Jalili du Parti conservateur qui n'en a obtenu qu'environ 13 millions de voix. Après avoir assuré sa victoire, Pezeshkian a écrit sur X qu'il y aura un chemin difficile à parcourir, à moins que ce ne soit avec amitié, empathie et confiance. Pezeshkian a reçu les félicitations de nombreux dirigeants de pays du monde qui espéraient que son leadership pourrait encourager la réalisation de la paix au Moyen-Orient, en particulier avec Israël. Parmi les dirigeants d'État qui ont exprimé leur félicitations figurent le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping, le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, le premier ministre malais Anwar Ibrahim et le premier ministre indien Narendra Modi. Les félicitations sont également venues du partenaire proche de l'Iran, à savoir le président syrien Bachar al-Assad. Par ailleurs, le secrétaire de presse japonais Kitamaru Toshihiro, cité par Antara, a déclaré que Tokyo espère que l'Iran jouera un rôle constructif dans l'apaisement des tensions et la stabilisation de la situation dans la région du Moyen-Orient. Les déclarations de Pezeshkian sur l'amitié et l'empathie apportent un nouvel espoir pour réaliser la paix au Moyen-Orient. L'élection iranienne intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient due à la guerre entre Israël et les alliés de l'Iran, le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, ainsi qu'à la pression occidentale croissante sur l'Iran à propos de son programme d'enrichissement d'uranium qui progresse rapidement. Pezeshkian, ancien ministre de la Santé et ancien membre du Parlement iranien, est connu comme une figure réformiste modérée qui pourrait éventuellement militaire en faveur d'une politique étrangère pragmatique. Le nouveau président iranien devrait être capable de désamorcer les négociations tendues avec les principaux pays et de relancer l'accord nucléaire de 2015, aujourd'hui au point mort. En dehors de cela, cela peut également accroître les perspectives de libération sociale et de pluralisme politique. C'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 8 juillet 1940, l'aéroport de Kemayoran est inauguré. Ce jour tard, l'aéroport de Kemayoran a été officiellement inauguré le 8 juillet 1940. Cet aéroport a été le premier aéroport d'Indonésie à être ouvert aux vols internationaux réguliers. Bien qu'il ait été inauguré le 8 juillet 1940, cet aéroport était en réalité opérationnel depuis quelques jours auparavant. Le premier avion à atterrir était un DC-3 Dakota appartenant à la compagnie aérienne des Indes orientales néerlandaises. Koninklijke Nederlandse Indische Luchtvaart Maatschappij, KNILM, qui décollait de l'aéroport de Chilitan. Cet aéroport a officiellement cessé ses activités le 31 mars 1985, avec début du transfert des activités aériennes vers l'aéroport international Soekarno-Hatta. Ce jour tard, nous allons continuer à l'événement du 8 juillet 1994, décès du dirigeant nord-coréen Kim Il-sung. Kim Il-sung, dirigeant de la Corée du Nord au pouvoir depuis 1947, a rendu son dernier souffle à l'âge de 82 ans. Kim Il-sung est décédé d'une crise cardiaque le 8 juillet 1994. Le gouvernement nord-coréen a rapporté la nouvelle du deuil 34 heures après sa mort. Une période de deuil officielle a été déclarée du 8 au 17 juillet, au cours de laquelle le drapeau national a été mis en berne dans tout le pays et toutes les formes de divertissement et de danse ont été interdites. Le dictateur de 82 ans était le seul dirigeant de la Corée du Nord qui a pris le commandement avec la bénédiction de l'Union soviétique lorsque la péninsule coréenne a été divisée en deux pays en 1948. Aujourd'hui tard, nous allons terminer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement de 8 juillet 2022. Le premier ministre japonais Shinzo Abe est tué. Aujourd'hui tard, l'assassinat de Shinzo Abe a eu lieu le 8 juillet 2022, alors que l'ancien premier ministre japonais prononçait un discours près de la gare Yamato Seidaiji à Nara. Il a reçu une balle dans la poitrine à 11h30, heure locale. Au moment de la fusillade, Abe prononçait un discours au nom du Parti libéral démocratique avant les prochaines élections du Conseil consultatif. Abe a reçu 3 balles dans le dos avec un fusil de chasse artisanal. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital local avec une blessure à la poitrine et n'aurait présenté aucun signe vital à l'hôpital. À 00h07, Abe aurait été inconscient. L'auteur de l'attaque était un homme de 41 ans de la ville de Nara, Tetsuya Yamagami, qui est un ancien membre de la force maritime d'autodéfense japonaise. L'auteur a été arrêté par la police de la préfecture de Nara à 11h42 sur les lieux. Selon la police, le meurtre a été commis par l'autre parce qu'il n'était pas satisfait du gouvernement de l'ancien premier ministre japonais. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini.
Oh, ada yang tak biasa di antara kita. cinta.
Kata-katakan ini benar nyata.
Voilà la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz
et 4755 kHz.
Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour l'arbitre suivante, voici donc mon Indonésie, ayant pour le titre Vice-ministre indonésien de la Défense renforce son partenariat stratégique avec la Turquie. Le vice-ministre indonésien de la Défense, Muhammad Herindra, a effectué une visite bilatérale en Turquie jeudi 4 juillet pour rencontrer le vice-ministre turc de la Défense, Bilal Durdali, et un certain nombre de président-directeur général de l'industrie de défense turc. Citant kemhan.go.id le 4 juillet 2024, Muhammad Herindra a déclaré que l'Indonésie considérait la Turquie comme un allié important et entretenait depuis longtemps une coopération en matière de défense. Il a déclaré qu'il existe de nombreuses opportunités pour élargir la coopération bilatérale en matière de défense entre l'Indonésie et la Turquie, notamment en établissant une confiance mutuelle, en augmentant la capacité des forces armées et en développant le secteur de l'industrie de défense à l'avenir. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique Indonésie-Turquie dans les domaines de la coopération en matière de défense et de l'industrie de défense. À cette occasion, Hendra et Durlali ont affirmé que l'engagement commun pris par le ministre de la Défense des deux pays est de coopérer étroitement, de construire un partenariat stratégique et de contribuer à la paix et à la stabilité mondiale. Les vice-ministres de la Défense de l'Indonésie et de la Turquie ont espéré que les deux pays pourront contribuer positivement au développement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur de la défense. Lors de sa visite en Turquie, le vice-ministre de la Défense et son entourage ont également visité FNSS Sabuna System Leri, ou le système de défense FNSS, qui est un fabricant turc de défense. L'Indonésie, partenaire de Pindad Société Anonyme, a coopéré avec la FNSS, y compris dans le développement conjoint d'une tourelle de 30 tonnes et de 105 mm pour un char moderne de poids moyen ou MMWT. Cette coopération a atteint le stade de perfectionnement du prototype mené par la FNSS à Ankara en Turquie. Le vice-ministre a également visité Turkish Aerospace Industry, TUSAS, afin de réaliser les résultats de la coopération avec PTDI, notamment le développement d'un véhicule aérien sans pilote UAV. Selon l'agence de presse Antara, samedi 6 juillet, l'ambassadeur d'Indonésie en Turquie, Ahmad Rizal Purnama, qui accompagnait la visite du vice-ministre de la Défense, Herindra, en Turquie, a déclaré que la Turquie était le partenaire idéal pour le développement de l'industrie de défense de l'Indonésie. En plus d'être le partenaire de confiance de l'Indonésie dans les forums multilatéraux et sur les questions cruciales actuelles, la Turquie est l'un des rares pays disposés à s'associer à l'Indonésie dans le cadre du mécanisme de transfert de technologie pour l'industrie de défense. L'ambassadeur Ahmad Rizal a expliqué qu'étant donné la nature à long terme des besoins, la coopération en matière de défense entre l'Indonésie et la Turquie devrait être décrite dans le document stratégique de la grande conception pour un partenariat stratégique à long terme dans l'industrie de la défense qui constituera les livrables ou les résultats du futur chef de réunion d'État des deux pays à l'avenir. La coopération en matière de défense et l'industrie de la défense sont des secteurs prioritaires dans les relations bilatérales République d'Indonésie-Turquie. C'est Zulitam, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Thank you.
mudah, dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Never let it miss, bring me the fist. Ha ha, no friends, I was just dissing English. Make them see you an ordinary kiss. You are so special. You have to believe. You have to believe. You have to
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz
et 4755 kHz.
Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, l'emplacement de l'île Nirup se trouve dans le district de Belakang Padang, dans la ville de Batam, dans les îles de Riau au Kepri. Cette île est environ 8 milles ou environ 13 km de la plage de Sentosa à Singapour. Une partie de sa zone côtière est couverte de denses forêts de mangroves. De l'autre côté, pousse en épaisseur des arbres typiques des forêts tropicales qui constituent un habitat pour la faune sauvage comme le singe, les varans et les oiseaux marins. L'île Nirup possède également un littoral assez long. L'île qui possède également une étendue de sable naturel en fait un endroit idéal pour organiser diverses activités sportives de plage telles que le volleyball et le football de plage. Avec la topographie de l'île, si vous visitez cette île, vous pouvez installer une tente et passer la nuit ici. Si vous souhaitez faire la plongée en apnée, l'île de Nirup peut également être un lieu de prédilection. Les récifs coralliens prospèrent ici, ainsi que les habitats marins tels que divers types de poissons et autres espèces marines. Sezrita, pour vous rendre sur l'île de Nirup, depuis la ville de Batam, vous devez vous rendre au port de ferry de Sekupang. De là, vous devez prendre un bateau pour le district de Belakang Padang. Depuis Belakang Padang, continuez votre voyage en louant un bateau pour l'île de Nirup. Le prix de location du bateau dépend de votre accord avec le batelier. Le trajet de Belakang Padang à Nirup prend environ 20 minutes. Avant de vous rendre sur l'île de Nirup, assurez-vous d'apporter votre propre nourriture, car il n'y a pas de restaurant sur l'île. Si vous souhaitez passer la nuit, il n'y a pas d'hôtel sur l'île. Vous pouvez installer une tente au bord de la plage. Assurez-vous également d'avoir apporté votre équipement de camping complet. Chers auditeurs, c'était le magazine Kutulan pour ce soir avec comme titre « Les Nirup à Riau ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Chers auditeurs, Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs,
vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'Éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Bali signifie à Bali. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est « Kalau tidak dilindungi » Je répète « Kalau tidak dilindungi » signifie « si on ne conserve pas ». Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et un agent de conservation des tortues. L'agent a expliqué des conséquences qui se produiraient si les tortues n'étaient pas protégées. Écoutons la conversation.
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Kalau tidak dilindungi. Kalau tidak dilindungi signifie si on ne conserve pas. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Kalau. Kalau signifie si. Penyu. Penyu signifie tortue. Dikonservasi. Dikonservasi signifie être conservé. Kehidupan. Kehidupan signifie la vie. Terumbu karang. Terumbu karang signifie le récif de corail. Terganggu. Terganggu signifie perturbé. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Signifie si on ne conserve pas ces tortues, la vie des récifs coralliens sera perturbée. Pulau Serangan. Pulau Serangan signifie île de Serangan. Tiga jenis. Tiga jenis signifie trois types. Penyu hijau. Penyu hijau signifie tortue verte. Penyu sisik. Penyu sisik signifie tortue imbriquée. Penyu lekang. Penyu lekang signifie tortue olivâtre. Dans la conversation, vous entendez la déclaration kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Je répète. Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Signifie, si on ne conserve pas ces tortues, la vie des récifs coralliens sera perturbée. Dans cette phrase, il y a une conjonction kalau. Je répète. Kalau signifie si qui fonctionne pour relier des parties de la phrase penyu-penyu tidak dikonservasi. Penyu-penyu tidak dikonservasi signifie on ne conserve pas ces tortues et une partie de la phrase kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu. Kehidupan terumbu karang di sini akan terganggu signifie la vie des récifs coralliens ici sera perturbée. La partie de la phrase penyu tidak dilindungi. Penyu tidak dilindungi signifie on ne conserve pas la tortue, exprime le sens de cause. Pour relier deux parties d'une phrase qui exprime le sens de cause et de conséquence, vous pouvez utiliser la conjonction kalau. Kalau signifie ici dans la partie de la phrase qui énonce la cause. Allez écouter un autre exemple d'utilisation de la conjonction kalau. Kalau signifie si dans une phrase qui exprime une relation de cause à conséquence. Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. Kalau kekurangan makanan, tukik akan memangsa tukik lain. Signifie s'il y a un manque de nourriture, les bébés de tortue se mangeront. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Kalau kamu datang terlambat, kamu akan tertinggal pesawat. Signifie, si vous arrivez en retard, vous manquerez votre vol. En indonésien, il existe plusieurs noms pour des animaux similaires à penyu. Penyu, ou en français les tortues. À savoir, kura-kura. Kura-kura. Ou bien bulus, bulus, ou bien labi-labi. Labi-labi, il signifie des tortues. Penyu, penyu signifie tortue, a des pieds en forme de nageoire et vit dans l'eau de mer. Kura-kura, kura-kura signifie tortue, a des pieds et des orteils et vit sur terre et dans l'eau. Bulus ou bien labi-labi. Bulus ou bien labi-labi, ce qui signifie tortue à deux pieds en forme de nageoire et une coquille molle et vit dans l'eau douce. Avant de terminer, parlons l'indonésien d'aujourd'hui. Écoutons encore une fois la conversation.
Di Pulau Serangan ini ada tiga jenis penyu yang dikonservasi, yaitu penyu hijau, penyu sisik, dan penyu lekang.
Mengapa penyu-penyu itu dikonservasi?
Kalau penyu-penyu itu tidak dikonservasi, kehidupan terumbu karang di sini terganggu.
Chers amis, voilà l'émission de Parlons Indonésien d'aujourd'hui, dont le sujet est kalau tidak dilindungi. Kalau tidak dilindungi signifie si on ne conserve pas. J'espère que cette édition pourrait être utile pour vous, en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Cette fois, nous vous présentons une chanson crunchon intitulée Nyur Hijau, chantée par Gustin Arviana, accompagnée par Side of X Crunchon Orchestra. Sur Jouetard, cette chanson régulièrement jouée en ouverture des émissions de Radio République Indonésie RI a été créée par Air Maladi. Air Maladi ou Raden Maladi est un musicien combattant de la liberté bureaucrate et l'un des pionniers du sport national qui est le football. Avant l'ère de l'indépendance indonésienne, Maladi était le gardien de but de l'équipe nationale des Indes néerlandaises dans les années 1930. Le fait d'avoir travaillé chez RRI a été l'un des facteurs qui ont conduit Maladi à être nommé ministre de l'Information pour la période 1959-1962 sous le gouvernement du premier président de la République d'Indonésie, Sukarno. Maladi a également été le premier ministre des Sports de la République d'Indonésie 1964-1966. La chanson Nyur Hijau est capable d'évoquer des sentiments de nationalisme, raconte l'histoire de la beauté naturelle de l'archipel en tant que patrie bien-aimée du peuple indonésien. Bon, chers auditeurs, voici une chanson crunchon intitulée Nyur Hijau, chantée par Gustin Arviana, accompagnée par Sairof X Crunchon Orchestra. Bonne écoute!
Oh,
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde.
Au revoir.